capuchons, on les jette à terre, on les roue de coups dans la boue, et tout cela aussi ils le supportent en pensant aux souffrances du Christ. Voilà la joie parfaite. La voie étroite dont le Christ a dit que peu la trouvent, avant même de pouvoir la suivre, ils y sont. Ils se sont vaincus pour l'amour du Christ. Ils ont tout supporté. Ils ont accepté la croix. Le but est atteint. L'éternité bienheureuse leur sera ouverte. Sic transit. Le nom de Pérouse n'est pas sans intérêt dans le récit de cette quête de la joie parfaite. C'est en tournant le dos à cette ville arrogante que François et frère Léon vont partir à la recherche de l'absolu, et ce n'est pas par hasard que le saint a nommé cette cité dont il a de sombres souvenirs. Après le désastre de Ponte San Giovanni, il a passé un an dans les geôles papales de Pérouse, qui, bien que soumise au pouvoir romain, se distinguait par ses excès de toutes sortes. Symboliquement donc, les deux religieux fuyaient une sorte de petit enfer pour aller chercher un refuge à Sainte-Marie-des-Anges. C'est dire quel éloignement éprouvait François à l'égard de cette Babylone italienne. Le jour allait venir où il la maudirait. Mais bien avant cela, un événement sinistre devait y avoir lieu. On se souviendra du projet de croisade, la cinquième, que le pape avait si fortement à cœur de mener à bien. Mais il était urgent de réconcilier d'abord Pise et Gênes, qui devaient prendre part à l'expédition. Et surtout, il fallait à tout prix déjouer les manigances de Venise, qui, selon son habitude, essayait de détourner à son avantage l'itinéraire de cette croisade dont le but était Jérusalem. C'était à quoi allait s'employer Innocent III, le rapprochement des deux cités de la mer tyrrhénienne. Il résolut de se rendre à Pérouse le 1er juillet 1216, accompagné de la plupart des cardinaux, un peu plus d'une vingtaine, pour résoudre ses difficultés. Cela pouvait prendre du temps. Il avait alors 55 ans, mais des travaux accablants l'avaient prématurément usé. Jacques de Vitry, qui venait d'être nommé évêque d'Acre, voulut profiter de son passage en Ombrie pour recevoir sa consécration des mains du pape. Mais une surprise étrange l'attendait. Le 16 juillet, le pape avait été foudroyé par une embolie. À cause de la forte chaleur, on avait sans doute précipité le cérémonial, et il n'y eut personne pour le veiller dans la cathédrale dont on avait fermé les portes. Le lendemain, au petit jour, Vitry entra avec quelques membres de la curie et trouva Innocent III gisant nu et déjà nauséabond sur le pavement, seul dans l'église romane sombre et massive, encore pleine de nuit. Crosse, tiare, vêtements précieux, tout cela avait été emporté par des voleurs dans l'obscurité. Dans une lettre restée fameuse, l'évêque français décrit cette horreur. « J'ai vu de mes yeux, ajoute-t-il, combien vaine, brève et éphémère est la gloire de ce monde. Sic transit gloria mundi. » Telle fut la fin de ce grand de la terre. Auteur d'un traité sur le mépris du monde, De contemptu mundi, que la mort devait paraffer d'un commentaire si magistralement cynique. Thomas d'Eccleston, franciscain anglais du XIIIe siècle, affirme que François d'Assise fut présent à la mort du pape. Cela nous paraît improbable et n'a été relevé nulle part ailleurs. François, en effet, eût certainement voulu veiller le cadavre de celui à qui il devait l'approbation de sa communauté, comme les frères mineurs le firent plus tard pour Honorius III et Grégoire IX. Conclave à Pérouse. Dans des circonstances aussi sérieuses, l'Église ne pouvait rester longtemps sans chef, et le sacré collège fut réuni en toute hâte. Le cas du reste avait été prévu par le pape Alexandre III en 1179, décidant que le nouveau pape serait élu aussitôt son prédécesseur inhumé, et dans la ville même où celui-ci serait mort. Cela parce que Rome était parfois sujette à des séditions dangereuses. Pour le nombre des cardinaux constituant le conclave, il suffirait qu'il y en eût la moitié plus un. L'élection par acclamation du peuple était abolie. Le 18 juillet fut élu pape le cardinal Savelli, qui prit le nom d'Honorius III. C'était un vieillard d'une grande bonté qui avait donné la presque totalité de ses biens aux pauvres. Sa piété était connue de tous, et l'on n'eût pas pu faire de choix plus heureux, sinon pour l'âge, qui